soit, par exemple, une ligne coupée en deux parties inégales. Coupe encore en deux chacune de ces deux parties, qui représentent l'une le monde visible, l'autre le monde intelligible. Et ces deux sections nouvelles, représentant la partie claire et la partie obscure de chacun de ces mondes, tu auras pour l'une des sections du monde visible les images. J'entends par images, premièrement, les ombres. Ensuite, les fantômes représentés dans les eaux et sur la surface des corps opaques, polis et brillants, et toutes les autres représentations du même genre. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, Socrate.
L'autre section te donnera les objets que ces images représentent. Je veux dire les animaux, les plantes et tous les ouvrages de l'art comme de la nature. Je conçois cela. Veux-tu qu'à cette division du monde visible soit substituée celle du vrai et du faux de cette manière ? L'opinion est à la connaissance ce que l'image est à l'objet.
J'y consens.
Voyons à présent comment il faut diviser le monde intelligible.
Comment ?
En deux parts, dont l'âme n'obtient la première qu'en se servant des données du monde visible que nous venons de diviser, comme autant d'images, en partant de certaines hypothèses, non pour remonter au principe, mais pour descendre à la conclusion. Tandis que pour obtenir la seconde, elle va de l'hypothèse jusqu'au principe qui n'a besoin d'aucune hypothèse, sans faire aucun usage des images, comme dans le premier cas, et en procédant uniquement des idées considérées en elles-mêmes.
Je ne comprends pas bien ce que tu dis.
Patience. Tu le comprendras mieux après ce que je vais dire. Tu n'ignores pas, je pense, que les géomètres et les arithméticiens supposent deux sortes de nombres, l'un pair, l'autre impair, les figures, trois espèces d'angles, et ainsi du reste, selon la démonstration qu'ils cherchent. Que ces hypothèses, une fois établies, ils les regardent comme autant de vérités que tout le monde peut reconnaître, et n'en rendent compte ni à eux-mêmes ni aux autres. Qu'enfin, partant de ces hypothèses, ils descendent, par une chaîne non interrompue, de proposition en proposition, jusqu'à la conclusion qu'ils avaient dessein de démontrer.
Pour cela, je le sais parfaitement.
Par conséquent, tu sais aussi qu'ils se servent de figures visibles et qu'ils raisonnent sur ces figures, quoique ce ne soit point à elles qu'ils pensent, mais à d'autres figures représentées par celles-là. Par exemple, leur raisonnement ne porte pas sur le carré ni sur la diagonale telle qu'ils les tracent, mais sur le carré tel qu'il est en lui-même avec sa diagonale. J'en dis autant de toutes sortes de formes qu'ils représentent, soit en relief, soit par le dessin, et qui ont aussi leurs images, soit dans l'ombre, soit dans le reflet des eaux. Les géomètres les emploient comme autant d'images, et sans considérer autre chose que ces autres figures dont j'ai parlé, qu'on ne peut saisir que par la pensée.
Tu dis vrai, Socrate.
Ces figures, j'ai dû les ranger parmi les choses intelligibles, et je disais que, pour les obtenir, l'âme est contrainte de se servir d'hypothèses, non pour aller jusqu'au premier principe, car elle ne peut remonter au-delà de ces hypothèses, mais elle emploie les images qui lui sont fournies par les objets terrestres et sensibles, en choisissant toutefois, parmi ces images, celles qui, relativement à d'autres, sont regardées et estimées comme ayant plus de netteté.
Je conçois que tu parles de ce qui se fait dans la géométrie et les autres sciences de cette nature.
Conçois à présent ce que j'entends par la seconde division des choses intelligibles. Ce sont celles que l'âme saisit immédiatement par la dialectique, en faisant des hypothèses qu'elle regarde comme telles et non comme des principes, et qui lui servent de degrés et de points d'appui pour s'élever
jusqu'à un premier principe qui n'admet plus d'hypothèse. Elle saisit ce principe et, s'attachant à toutes les conséquences qui en dépendent, elle descend de là jusqu'à la dernière conclusion, repoussant toute donnée sensible pour s'appuyer uniquement sur des idées pures, par lesquelles sa démonstration commence, procède et se termine. Je comprends un peu, mais pas encore suffisamment. Il me semble que tu nous exposes là un point qui abonde en difficultés. Tu veux, ce semble, prouver que la connaissance qu'on acquiert par la dialectique de l'être et du monde intelligible est plus claire que celle qu'on acquiert par le moyen des arts qui ont pour principe des hypothèses, qui sont bien obligés de se servir du raisonnement et non des sens, mais qui, fondés sur des hypothèses, ne remontant pas au principe, ne te paraissent pas appartenir à l'intelligence, bien qu'ils devinssent intelligibles avec un principe. Et tu appelles, ce me semble, connaissance raisonnée, celle qu'on acquiert au moyen de la géométrie et des autres arts semblables, et non pas intelligence. Cette connaissance étant comme intermédiaire entre l'opinion et la pure intelligence. Tu as fort bien compris ma pensée. Reprends maintenant les quatre divisions dont nous avons parlé et applique-leur ces quatre opérations de l'âme, savoir, au plus haut degré, l'intelligence pure, au second, la connaissance raisonnée, au troisième, la foi, au quatrième, la conjecture. Et classe-les de manière à leur attribuer plus ou moins d'évidence, selon que leurs objets participent plus ou moins à la vérité. J'entends. Je suis d'accord avec toi et j'adopte l'ordre que tu me proposes.